et pour votre générosité aussi pour l'Ukraine. Je parlais avec Pasteur Sonia jeudi, on s'est écrit par courriel, et puis elle partait jeudi pour la ville de l'Ukraine. Elle va directement en Ukraine, à Lviv, pour aider des différentes familles, pour aider tout ce qui se passe là-bas. Elle part directement dans le pays où il y a la guerre, là. Donc n'hésitez pas à continuer à prier pour elle, que Dieu fasse faveur sur son ministère, mais qu'en plus, qu'il puisse protéger toute l'équipe, parce qu'ils vont droit au front, là. Donc c'est des hommes courageux. Je suis passionné, moi, par ce qu'ils font, et je suis impressionné par ce qu'ils font, et par leur cœur, et par leur envie de servir Dieu, et par le rêve aussi que Dieu a mis dans leur cœur d'aller aider toutes ces personnes-là. Et nous, aujourd'hui, on va continuer notre série de messages sur le rêve de Dieu, la vie de Joseph. Et on a vu la semaine dernière que Dieu avait un rêve pour chacun d'entre nous. Et que malgré toutes les situations qui pouvaient prendre place autour de nous, il est vital que nous ayons des rêves. Il est vital que nous nous remettions à rêver. Parce que les rêves que Dieu va déposer dans nos cœurs vont nous amener à faire des choix déterminants pour notre présent. Et si vous avez manqué le message la semaine dernière à cause du verglas, si vous avez manqué le message à cause même peut-être de la semaine de relâche, ou alors parce que la couette de votre lit était trop lourde à soulever pour vous extirper de votre lit, vous avez toujours la possibilité d'écouter le message sur le site nouvellevie.com dans la rubrique « Messages ». On met tous les audios des messages généralement le mardi ou le mercredi. Et ce matin, on va retrouver Joseph qui est en prison. Mais avant ça, pourquoi Joseph est-il en prison? Est-ce qu'il est en prison parce qu'il a assassiné quelqu'un? Est-ce qu'il est en prison parce qu'il a volé quelqu'un? Est-ce qu'il est en prison parce qu'il a augmenté le prix du gaz de 20 centimes le litre pendant une nuit? Non. Joseph est en prison parce qu'un jour, Dieu lui a donné un rêve. Et rapidement, pour vous restituer dans le contexte, Joseph, c'est le fils préféré de son papounet Jacob. Et Jacob a offert un beau manteau à Joseph. Et Joseph, c'est le fils préféré. Et tous les frères de Joseph sont jaloux de lui. Et un jour, Joseph fait un rêve de la part de Dieu. Il fait même deux rêves de la part de Dieu. Et il a la brillante idée de le raconter à ses frères. « Hey les frères, j'ai rêvé que vous allez vous agenouiller devant moi. » Et ses frères se sont mis à l'haïr encore plus. Et ses frères ont décidé de se débarrasser de Joseph. Ils ont décidé de vendre Joseph à des Égyptiens. À la base, ils voulaient le tuer, mais ils se sont dit qu'un frère vivant vendu, ça rapportait plus qu'un frère mort. Et donc voilà Joseph vendu en esclavage en Égypte. Il est vendu en esclavage et il tombe dans une maison, la maison de Potiphar, un maître qui était connu à l'époque. Et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, Joseph devient le serviteur le plus important de la maison de Potiphar. Joseph a de plus en plus de responsabilités. Joseph gère quasiment toute la maison de Potiphar. Mais Joseph avait un problème, un grave problème. Et on le voit en Genèse 39, verset 6, Joseph était un jeune homme beau et charmant. Moi, je rêve qu'un jour Julie puisse dire ça de moi, quand elle me décrit. Joseph était beau et charmant. Et le problème, c'est que la femme de Potiphar a commencé à avoir un regard sur lui. Et un jour, elle lui ordonne, elle ne lui demande pas, elle lui ordonne, couche avec moi. Mais Joseph, par respect pour Potiphar et par respect pour Dieu, lui dit non. Et cette femme frustrée va commencer à répandre la fake news que Joseph a voulu abuser d'elle, que Joseph a voulu la violer, et elle le raconte à tout le monde et à son mari. Et son mari est fou de rage et il envoie Joseph en prison. Moi, parenthèse, je suppose que Potiphar savait très bien que Joseph était innocent. À l'époque, on exécutait les esclaves pour moins que ça. Et là, un esclave qui veut violer une maîtresse, il aurait été exécuté à coup sûr, normalement. Moi, je suppose que Potiphar était en colère, pas contre Joseph, mais contre sa femme. Je suppose que Potiphar était en colère parce qu'il a dû se débarrasser de Joseph pour préserver l'honneur de sa femme. Mais c'est que mon avis. Et donc, Joseph finit en prison. À cause du rêve de Dieu et à cause de son intégrité. Après avoir été vendu comme esclave, il finit dans un trou sombre et on aurait presque le goût de dire à Dieu « Hey, donne-lui un break, Seigneur !» Je pense que ça fait beaucoup là quand même. Hein. Il a été fidèle et il dégringole dans la hiérarchie. « Donne-lui un break, Seigneur !» Et on aurait presque le goût de dire la même chose aujourd'hui à Dieu. « Hey Seigneur, donne-nous un break, s'il te plaît. On sort de 2 ans de pandémie. » Puis là, il y a le prix du gaz qui augmente, le prix de l'épicerie qui augmente, la guerre quasi mondiale, voire même mondiale, selon certains experts qui explosent, plus 1 million de réfugiés, l'angoisse qui augmente, les manifestations, la neige, la glace. Donne-nous un break, Seigneur! Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai envie de dire ça à Dieu ou Sinon, je pars en thérapie tout seul. Hein. Je pars dans un coin tout seul, je me tape dans le dos, allez, Florian, courage. Et ce matin, je ne voulais pas seulement vous parler du rêve de Dieu pour nos vies, mais du rêve que Dieu a pour notre Église dans ces moments sombres, du mandat qu'il nous donne aujourd'hui dans cette période difficile. Et le titre de mon message, « Le rêve de Dieu pour l'Église dans une société en crise ». Non, ce n'est pas un slam, c'est juste un titre. Et pour ça, on va aller regarder directement dans la vie de Joseph, parce que Joseph nous offre un exemple à suivre. Et on va lire pas mal de versets ce matin. Et on va aller directement en Genèse 39, et à partir du verset 21. Il écrit « Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui, et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Le temps passa et un jour, 2 hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, là même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph. Et parenthèse ici encore, je reviens sur ma parenthèse de tout à l'heure, c'est aussi une des raisons pour laquelle je crois que Potiphar était en colère contre sa femme et pas contre Joseph, parce que dans la Bible, en Genèse 39, on voit que le chef de la garde, c'était Potiphar. Et plusieurs commentaires que j'ai pu lire s'accordent pour dire que ici on pourrait même presque dire que Potiphar les confia à Joseph. Et on reprend. Et ils furent maintenus quelque temps en prison. Une nuit, l'échanson et le boulanger du roi firent tous les deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre. Il leur demanda « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?»« Chacun de nous a fait un rêve, répondirent-ils. » Et il n'y a personne pour nous en donner l'explication. Dites « Oh !» avec moi. Hey, vous jouez le jeu, j'aime bien. Dieu peut vous la donner, déclara Joseph. Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. Amen. Les historiens nous disent que les prisons en Égypte, ce n'était pas des endroits fun. Ce n'était pas des tout inclus avec une télé, avec un petit endroit pour marcher, pour faire du basket, où on s'amuse, où c'est relax, détente. D'après les recherches, les prisonniers en Égypte, dans les prisons, étaient durement traités et ils avaient le strict nécessaire pour survivre. Pas seulement pour vivre, mais pour survivre. Et c'est dans ce lieu-là où Joseph a été jeté. Joseph a été jeté dans une sorte de camp de concentration. Mais Dieu était avec lui. Et combien savent que la présence de Dieu dans les pires situations, dans les pires conditions, que la présence de Dieu fait radicalement une différence, même si la situation ne semble pas évoluer, notre focus change, et il y a quelque chose qui change, même si tout ne change pas, on vit la situation différemment. J'ai entendu parler un jour d'un missionnaire qui était dans un pays pour évangéliser et on l'a mis en prison pour sa foi. Et pire qu'en prison, on l'a mis dans une sorte de boîte où il pouvait à peine se tenir debout, à peine s'asseoir. Bref, c'était une horreur, on ne pouvait pas dormir, bref, c'était compliqué. Et on l'a laissé là pendant plusieurs jours. Et à la fin de ces plusieurs jours, on l'en a sorti et sa réaction, ça a été « Remettez-moi là-dedans, Dieu était avec moi dans cette prison ». La présence de Dieu nous aide à affronter n'importe quelle situation parce qu'il nous entoure, il vient nous soutenir et il vient nous aider à passer par les pires moments, par les pires difficultés, par les pires souffrances. Sa présence vient faire une différence incroyable dans notre vie et c'est ce que Joseph vivait. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu était avec Joseph ? L'inverse aurait été bizarre. Pourquoi Dieu était avec Joseph ? On vient de lire que Joseph a obtenu la prison, a obtenu la gestion de toute la prison. Il dirigeait tout, il contrôlait tout, il est presque devenu le chef de la prison. Et moi, à cause des films ou à cause des séries, moi, quand j'entends parler d'un prisonnier qui dirige une prison, je pense à un gars ultra tatoué qui fait juste peur par son regard, qui gère la prison de la peur et qui gère tous les deals de drogue qu'on est obligé de payer parce que pour avoir la protection. Moi, je pense à ça, là. Mais Joseph était un autre prisonnier. Joseph ne gérait pas la prison par la peur, par la violence ou par la crainte. Joseph gérait la prison par le service. Et ça va être mon premier point ce matin. Pourquoi Dieu était avec Joseph ? Parce que Joseph était un exemple de service. On l'a lu tout à l'heure, mais je vais le relire dans une autre version parce qu'il y a un mot hébreu qui a mal été traduit, je trouve. Il est écrit tout à l'heure, « Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. » On va faire une pause ici un petit peu. On va revenir un peu en arrière encore. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai raconté le rêve de Joseph ? Joseph a dit à ses frères qu'un jour ils allaient tous s'agenouiller devant lui. Joseph pensait que le rêve de Dieu pour sa vie, c'était un rêve de gloire. Mais ce que Dieu est en train de lui apprendre, c'est que Dieu avait bien un rêve pour lui, mais que c'était un rêve de service. Joseph a servi Potiphar, et aujourd'hui, Joseph sert les prisonniers. Et pas n'importe quel prisonnier ici. On voit qu'on donne à Joseph la gestion de l'échanson du roi et du boulanger du roi. Autrement dit, Joseph va servir des serviteurs. Joseph passe de fils préféré à serviteur d'un grand maître, à serviteur dans une prison, à serviteur de serviteur prisonnier. C'est un peu difficile de tomber plus bas que ça, que de servir des serviteurs qui sont en prison. Mais Joseph ne fait aucune différence entre Potiphar et ses hommes. Joseph sert avec la même passion, avec la même fidélité que lorsqu'il servait Potiphar. Alors qu'il aurait pu être aigri envers Dieu, en disant « Hey, c'est injuste !» Il aurait pu être aigri, il aurait pu se renfermer sur lui avec toute la colère, il aurait pu s'enfermer et ignorer les autres. Joseph demeure fidèle à son service. Joseph a été dépouillé de son rêve de gloire pour servir. Joseph s'est mis à servir dans une prison qui était le lieu le plus terrible de l'époque. Et je trouve que la vie de Joseph, ce moment-là, ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société exclusivement centrée sur le « moi ». On vit dans une société égocentrique. Tout est centré, tout est à propos de nous. Et si vous voulez un exemple, si vous n'êtes pas trop d'accord avec moi, quand vous êtes avec une gang d'amis et que vous dites « Hey, prenons une photo », qui est la première personne que vous regardez instinctivement sur la photo ? Ne me mentez pas là. Qui est la première personne que vous regardez instinctivement ? Oui, c'est moi. On regarde moi et après, deuxièmement, c'est vous. On se regarde, nous, généralement, en premier. Et même, pour aller encore plus loin dans ma pensée, qu'est-ce qui détermine si la photo est réussie ou non ? C'est si on se trouve beau. Si on se trouve beau alors que tout le monde est tout croche, oh, bah, c'est pas grave, j'ai publié sur Facebook. Par contre, si on se trouve moche, non, reprends-en une autre. On va en reprendre une autre. Même dernièrement, je me suis vraiment rendu compte de ça. Ça fait 2 ans qu'on enchaîne les Zooms, qu'on fait des Zooms, qu'on mange du Zoom. Et honnêtement, je me suis rendu compte que dans les Zooms, j'avais un réflexe. Je me regarde. Est-ce que ma main, elle est bien là ? Ok, d'accord. Mes cheveux, ok. Quand je parle, est-ce que je parais bien ? Ok. Je suis tanné de me regarder à la fin dans les zooms. Je prends mon image maintenant et je la mets au plus loin possible de mon écran pour éviter que j'aille la regarder. Mais quand je regarde les autres parler, je les vois dans l'œil en train de se regarder aussi. On est une société où on aime se regarder, où on aime, tout est centré sur nous. On est dans une société où on veut être servi au lieu de servir. On ne veut pas influencer par notre service, mais on veut influencer par qui on est. Et Churchill, il y a plusieurs années de ça, Winston Churchill, le premier ministre anglais, a dit que l'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Ils veulent pas être utiles, mais ils veulent être vus, ils veulent être glorifiés. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Une étude sortie dernièrement aux États-Unis montre que 86% des jeunes rêvent d'être influenceurs Instagram. 86% des jeunes rêvent d'être une star, comme Joseph. Et Jésus nous met en garde contre ce genre de comportement. Jésus nous a mis en garde contre ce genre de comportement. Alors, c'est vrai que le texte que j'ai choisi, il parle spécifiquement des maîtres de la loi, mais ça s'applique à tout le monde aujourd'hui. Jésus nous dit en Luc 20, au verset 46, « Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. » Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Méfiez-vous d'eux, ne suivez pas leur exemple, nous dit Jésus. Ne suivez pas ceux qui se croient au-dessus de vous, qui se promènent pour être vus, qui se promènent avec des longues robes. Et au passage, Joseph s'est promené aussi avec un long manteau. Son manteau devait recouvrir tout le haut de ses bras et tout le bas de ses jambes. C'est un manteau où est-ce que c'est difficile pour travailler à l'époque. Mais il se promenait avec son beau manteau de couleur, symbole de gloire, symbole de supériorité. Et ses frères lui ont arraché. Son rêve de gloire lui a été arraché. On lui a arraché le rêve d'être un influenceur parce que le rêve de Dieu pour sa vie était qu'il soit serviteur. Et Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 20, verset 26, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Jésus nous appelle à être des serviteurs à l'exemple de Joseph parce que clairement, c'est nous là, on veut être les plus grands, on veut être les premiers. Jésus nous dit, ok, tu vas être le plus grand, tu vas être le premier, sois un serviteur, sois un esclave. Jésus nous appelle à être des serviteurs dans ces temps difficiles. Ce n'est pas le temps de se replier sur soi comme aurait pu le faire Joseph. Ce n'est pas le temps de vouloir s'élever comme le rêvait Joseph. Mais c'est un temps pour servir, comme l'a appris Joseph et comme Dieu le veut pour nous. Le rêve de Dieu pour nos vies. Ce n'est pas ultimement pour nous, c'est pour les autres. Je ne sais pas si vous connaissez William Booth, c'est le fondateur de l'armée du salut. Et pour ceux qui ont vu Le Hobbit, non, ce n'est pas un acteur du Hobbit, c'est bien William Booth. Et il a fondé l'armée du salut et il était reconnu pour ses courts discours, pour ses courts messages punchés de 2 heures. Qui a envie que je prêche 2 heures ce matin? Et un jour, il arrive à la fin de sa carrière, il arrive à la fin de son ministère, et il y a une foule qui l'a. C'est le dernier message de William Booth. C'est son dernier message, on ne veut pas manquer ça, on a 2 heures à perdre, on va y aller. Et William Booth arrive, et ses derniers 2 heures ont pu être résumés en un mot. Others. Les autres. C'est exactement ce que Joseph nous apprend en tant qu'Église. Ne fixons plus notre regard sur nous-mêmes, mais sur les autres. À l'exemple de Jésus, qui est venu, pas pour être servi, mais qui est venu en servant. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Joseph, c'est qu'on ne voit pas un seul moment de répit. On ne voit pas un seul moment où il est comme « Bon Seigneur, je suis dans la maison de Potiphar, je suis en prison, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que je serve ?» Joseph a appliqué ce qu'Ecclésiaste nous dit au chapitre 9 et au verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Tout ce que Joseph trouvait, il le faisait avec fidélité. Joseph servait. Et toi aussi, sers ton mariage, sers ta famille, sers ton église, sers ton voisin, sers la personne qui est à ta droite ou à ta gauche. Tu veux que Dieu soit avec toi dans ton mariage comme il était avec Joseph dans la prison ? Tu veux que Dieu soit avec toi dans tes difficultés, dans ton couple ? Commence par servir l'autre. Commence à aimer l'autre en action. Commence à mettre ton conjoint ou ta conjointe en priorité avant les factures, avant le travail, avant les enfants, avant la maison, avant l'hypothèque. Mets ton couple en premier. Tu veux que Dieu soit avec toi quand tu vas au travail, comme il était avec Joseph. Commence à servir tes collègues. Commence à servir les autres. Moi, quand j'étais en France, je travaillais dans une banque. Et honnêtement, quand on travaille dans une banque alors qu'on a l'appel, alors que Dieu m'avait mis le rêve d'être un pasteur, alors que Dieu m'avait mis l'appel dans mon cœur, le rêve dans mon cœur de prêcher, je peux vous dire qu'il y a un gap entre prêcher et être dans une banque. Mais Dieu, dans la banque, m'a appelé à servir mes collègues. Et je les ai servis du mieux que je pouvais. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais appelé à servir. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends que mon rêve, c'est de servir. C'est pas de prêcher, c'est de vous servir. C'est pas d'enseigner, c'est de servir l'Église. Et je l'ai appris en banque, auprès de mes collègues. Tu veux que Dieu soit avec ton Église ? Sers ton Église. Si tu veux voir ton Église grandir, sers ton Église. Regarde, à commencer à regarder les besoins qui sont autour de toi pour commencer à servir. Et je vais faire une parenthèse pastorale ici pour tous les gens de Châteauguay. Je vais vraiment prendre un temps spécial. La semaine dernière, j'ai fait une annonce particulière pour NV Junior dans mes annonces. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, et la raison pour laquelle j'en parle encore en ce moment, elle est simple. Toutes les semaines, j'ai la liste de bénévoles et je prie pour chaque bénévole qui va s'impliquer dimanche. Je prie pour chaque bénévole qui va s'impliquer dimanche. Et quand j'arrive dans la cédule de NV Junior, je me rends compte qu'une semaine sur deux, la case pour les préscolaires est vide. On a effectivement en fait perdu des personnes pendant le dernier confinement pour des bonnes raisons. Ils nous ont dit on arrête le service parce qu'il y a différentes raisons. On est comme ok, on comprend tes raisons, elles sont correctes. Mais le problème, c'est qu'une semaine sur deux, avec Julie, on regarde la cédule, on est comme Seigneur, viens nous aider parce que là, c'est vide. Une semaine sur deux, on prie, on se demande à Dieu comment on va faire pour rejoindre nos gens. Et j'ai conscience que pour certains, ça fait 2 ans qu'ils sont en confinement avec leurs enfants. J'ai conscience que l'implication aussi auprès des enfants, c'est l'implication qui souffre le plus en Amérique du Nord. Ce n'est pas seulement à Châteauguay, c'est dans toute l'Amérique du Nord. Mais à Nouvelle Vie Junior, ce sont des moments extraordinaires. Il y a tellement de bénévoles qui peuvent vous dire ici, puis je vois mon ami François qui est comme « Ouh, bag up !» Nos enfants passent des temps qui sont bénis grâce aux moniteurs. C'est des temps qui sont fun, des temps bénis, mais aussi où les moniteurs reçoivent des enfants. Ce n'est pas juste les moniteurs qui donnent, c'est les moniteurs aussi qui reçoivent. Il y a comme un échange avec les enfants. Et ce matin, je veux vous inviter, si vous avez à cœur de rejoindre l'équipe, nous avons besoin de vous. Venez avoir du fun avec nous. Parce que le rêve de Dieu pour notre Église, c'est que nous servions l'Église. C'est que nous servions notre entourage afin d'être des lueurs d'espoir, comme Joseph. C'est pour ça que Dieu était avec Joseph, c'est parce que Joseph était une lueur d'espoir. Il a été une lueur d'espoir parce qu'il servait autour de lui. Il a appris, par son service, Joseph a appris à faire attention aux autres, à prendre soin des autres. Avant, vous pouvez lire Genèse 37, il ignorait totalement ses frères. Ses frères étaient en colère contre lui, ses frères lui parlaient mal, ses frères le rejetaient, ses frères avaient de la haine pour lui. Et lui, sa seule réaction, c'était comme « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous, allez vous agenouiller devant moi. » Joseph était totalement aveugle de la souffrance que ressentaient ses frères. Mais aujourd'hui, le service l'a rendu attentif à la tristesse des deux prisonnier dont il devait prendre soin. C'est en servant ta famille que tu vas te rendre compte de la douleur que certains membres de ta famille vivent au quotidien. C'est en servant tes collègues que tu vas te rendre compte que certains de tes collègues passent par des situations difficiles. C'est en servant ton église que tu vas te rendre compte que la personne que tu vois qui a l'air spirituelle le dimanche matin, qui lève les mains, vit des situations complexes dans la semaine. Il n'est plus centré sur l'injustice qu'il a vécue, parce que c'était injuste la raison pour laquelle il était en la prison. Il n'est pas centré sur son injustice, sur sa situation, mais il est centré sur les autres. Et regardez comment il réagit quand les deux serviteurs du pharaon lui disent « On a fait un rêve et on est triste parce que personne ne peut nous l'interpréter. » On est d'accord que bon, il y a quand même pire comme situation. Et Joseph aurait pu fuir. Il aurait pu dire « Oh, nope. Hey, moi, les rêves, là, j'ai déjà donné. Ok ? Les rêves, ça suffit pour moi. J'ai assez souffert à cause des rêves. » Il aurait pu leur dire « Hey, tu veux vraiment une histoire triste ? Pose-toi un petit peu, on a 2 heures devant nous, je vais te raconter ma vie. Et tu auras une raison d'être triste. » Mais non, Joseph leur dit « Dieu peut vous donner la révélation et racontez-moi votre rêve. Je m'intéresse à vous, racontez-moi votre rêve. » Joseph a été un serviteur d'espoir. Joseph a été un canal d'espoir entre Dieu et ses hommes. Et aujourd'hui, on vit dans une situation, dans une société complexe aujourd'hui. Et on a le choix. Soit on peut se fermer et dire « Non, nous aussi, on a assez souffert. On a été fermés la plupart du temps, là. On a assez souffert, puis on a encore le masque. Et puis, on a vécu des moments difficiles. On a vécu peut-être de l'injustice pour certains. On a encore nos masques. Moi, j'ai perdu mon entreprise. Moi, j'ai perdu une mauvaise semaine. Non, moi, je me ferme. Laisse-moi tranquille. » Ou alors, on a le choix de répondre à l'appel de Jésus qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que nous sommes. On ne veut pas être caché, on veut être visible. Dans un monde qui est en train de s'entre-déchirer, on a besoin d'être cette lumière d'espoir. On a besoin d'être cette lumière de paix. On a besoin d'être cette lumière d'amour, d'être des exemples dans notre service, par notre soutien, par notre générosité. On a besoin d'être animé de la compassion de Christ. On a besoin d'être rempli de l'Esprit, pas seulement pour que nous ayons des rêves qui nous élèvent, nous, mais pour porter un fruit vital dans une société qui est meurtrie. Aujourd'hui, j'ai lu plusieurs articles dernièrement et on voit que la société, plusieurs personnes dans la société, c'est juste une boule à angoisse. C'est une boule à angoisse. Les gens, selon les experts, les gens n'ont plus les défenses nécessaires pour réagir aux mauvaises nouvelles. Ça fait 2 ans qu'ils voient que des mauvaises nouvelles, leur forteresse intérieure est juste brisée. On n'est plus émotionnellement stable pour réagir face à l'augmentation des prix, à la guerre qui explose. On n'est plus capable. Et on voit en ce moment des appels d'adolescents. Depuis que la guerre a commencé, des appels d'adolescents qui ne font qu'augmenter en disant « Hey, je suis angoissé en ce moment. » Il y a une augmentation depuis le début de la guerre. Il y a une augmentation des gens qui sont angoissés quand ils vont aller faire l'épicerie. Quelque chose de simple, faire l'épicerie devient une angoisse pour certaines personnes. Mettre du gaz dans un char, ça devient tellement angoissant pour certaines personnes. Nous sommes dans une prison d'angoisse. Et des gens sont en train de se demander « Où est Dieu dans ces épreuves ?» Mais Dieu demande lui où est mon église dans ces épreuves. Nous avons le plus beau message à présenter à la société aujourd'hui. On a le plus beau message à annoncer aujourd'hui dans notre société. Nous sommes l'église de Christ. Nous n'existons pas seulement pour nous, mais on existe pour les autres, pour servir les autres, pour apporter le message de la bonne nouvelle qu'il y a un Dieu qui se soucie de nous. Même si le monde part en vrille, Dieu est là, Dieu nous soutient et Dieu nous aime. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Nous sommes appelés à briller, pas à bronzer devant la lumière. Nous sommes appelés à donner et pas uniquement à recevoir. Et je vais appeler les musiciens à venir me joindre tranquillement. Joseph nous apprend tout ça. Joseph était reconnu pour son service. Pourquoi es-tu reconnu? Si je demandais à ta femme, à ton mari, à tes voisins, à tes collègues, à tes enfants, pourquoi es-tu reconnu? Est-ce que je vais entendre des réponses que « Oh, bah, c'est un râleur. L'égoïste, elle est égoïste. » Amer, toujours négatif, toujours avoir le mauvais côté, fainéant, toujours centré sur lui. Ou est-ce que comme Joseph, tu es reconnu pour servir les gens autour de toi? Mon ami Ludovic, lui, je le reconnais pour son service. Le mercredi soir, avant notre réouverture de dimanche dernier, mercredi soir à 18h30, il m'appelle et me dit « Écoute Flo, je suis à ton église, là, alors qu'il est à Longueuil, je suis à ton église, je m'en vais déneiger. Je m'en vais déneiger. » Il est reparti, il était 21h. Stéphane Kiri, que certains connaissent, qui est reconnu en toute la francophonie parce qu'il a un ministère de worship incroyable. Stéphane Kiri commence prochainement, ou il est déjà en train de commencer, un ministère pour servir dans les prisons. Notre ami Luc Martel. Un jour, je l'appelle en automne, lui dire « Hey Luc, est-ce que tu veux bien monter une petite équipe là pour ramasser les feuilles qui sont tombées ce serait cool. Pas de stress, il n'y a pas de pression. » J'appelle le jeudi, quelque chose comme ça. Le dimanche, j'arrive à l'église, il n'y a plus de feuilles. Je vais le voir, je dis « Hey, t'as déjà tout fait ?» Je lui dis « Pas de pression. » Je dis « Oh ouais, je suis avec Suzanne. » Puis on a fait ça à deux. Reconnus pour leur service. Ginette et Shelly. Ginette et Shelly, pendant la pandémie, alors qu'elles servent habituellement avec les NB juniors, alors qu'elles sont en bas et qu'on ne les voit pas, Ginette et Shelly ont lancé un groupe pour les enfants durant la pandémie. Reconnus pour leur service. Jean-Sébastien, le jour de l'ouverture, est arrivé à 8h30. Bonjour, première fois que je viens, je suis là pour servir. Ok, let's go! Et je pourrais tellement en citer d'autres et d'autres. C'est ça le problème, c'est quand on commence à citer certaines personnes, on a envie de tout citer tout le monde. Là, je pourrais citer un Luc Legault. Une des premières fois que je l'ai rencontré, il était à l'accueil, l'inscription, il préparait des tables, il faisait de la bass, il faisait en même temps la sono, il faisait en même temps l'éclairage, il était partout. Reconnu pour son service. Et toutes ces personnes-là ne font pas ça pour la gloire. Toutes ces personnes-là ne font pas ça pour la gloire, mais pour prendre exemple sur Jésus. Et beaucoup dans cette église prennent exemple sur Jésus. Je suis tellement fier de me dire qu'on est, je pense, l'une des églises au Québec où on a le plus de taux de participation au bénévolat. Ces personnes répondent à l'appel de Jésus à servir comme il est venu nous servir, nous. Et toutes ces personnes ont leurs propres difficultés, hein, croyez-moi. Chacun a ses propres difficultés, chacun a ses propres défis dans la semaine. Mais ils viennent. Ils mettent leurs soucis de côté pour se centrer sur les autres. Ils servent en décidant d'aimer. Ils se donnent parce que le rêve que Dieu leur a donné et qu'il nous donne à tous, c'est d'être l'Église, c'est de représenter Christ. Dieu était avec Joseph parce que Joseph servait et que Joseph s'est mis de côté pour laisser Dieu l'utiliser. Et toi ? Quelle va être ta décision ce matin? Quel va être ton choix? Et ce matin, croyez-moi, je ne vais pas faire un appel juste à « si tu veux servir, lève la main ». Je pense que lever la main, c'est facile, mais remplir une feuille pour rejoindre une équipe, c'est beaucoup plus compliqué. Et si tu veux rejoindre l'équipe, on est heureux de t'accueillir. Comme je dis souvent, si tu ne sais même pas quoi faire, tente des choses. Si ça ne te plaît pas, on arrête, on trouve autre chose, il n'y a pas de problème. Mais quelle est ta décision ce matin? Je vais vous inviter à incliner vos têtes. J'ai évoqué tout à l'heure qu'on est dans une situation de crise et notre Église a besoin de la faveur de Dieu, mais peut-être que c'est toi aussi qui as besoin de la faveur de Dieu ce matin. Peut-être que plusieurs sont dans cette salle et ils sont comme les chansons du roi et le boulanger. Il y a juste une tristesse. Il y a juste une angoisse. Une angoisse qui pèse sur le cœur. Il y a juste un sentiment de solitude qui est là. Joseph, quand il s'est approché de ces hommes, il leur a dit « Dieu peut vous donner la révélation de votre rêve. » Si tu vis une situation d'angoisse en ce moment, de tristesse, peu importe tes défis, laisse-moi te dire que Dieu peut te donner la paix. Dieu peut te donner la joie. Dieu peut te donner cet amour dont tu as tellement besoin. Dieu peut te donner cette paix, ce calme, cette tranquillité dans tes temps d'angoisse, quand tu te présentes devant tes finances, quand tu allumes la télé. Dieu peut être cet amour dans ta famille qui est en train de se détruire. Dieu peut restaurer ton couple. Dieu peut sauver tes enfants. Dieu peut toucher ton corps. Dieu peut être ta lumière dans tes temps de ténèbres. Viens à lui. Viens à lui ce matin. Dis à Dieu, viens m'aider. Si ces hommes n'avaient rien dit à Joseph, Joseph n'aurait pas pu les aider. Viens apporter ton poids à Jésus ce matin. Mon message pour toi, Dieu peut te donner une nouvelle vie ce matin. Dieu peut t'aider à passer au travers de ces situations. Peut-être que ça ne va pas évoluer, mais ta façon de vivre les difficultés va changer. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne laisse pas. Un Dieu qui n'abandonne pas. Un Dieu qui a tout abandonné pour cette rencontre aujourd'hui. Viens à lui ce matin. Viens à lui ce matin. Père, alors qu'on se tient devant toi, alors qu'on vient devant toi, on demande ta grâce et je te prie pour ta grâce, une onction particulière sur toutes ces vies, sur tous ces cœurs qui sont abattus ce matin. Je te prie, Jésus, que tu viennes donner la paix à l'angoisse. Je te prie que tu puisses prendre autorité sur les tristesses, que tu puisses prendre autorité sur des situations où il n'y a plus rien à faire, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Je te prie, Seigneur, pour des personnes qui vivent dans des prisons d'angoisse, des prisons d'anxiété, des prisons où il n'y a plus rien qui semble aller. Jésus, tu es la solution ce matin. Tu es la solution pour des vies, tu es la solution pour des cœurs, et je te prie que ton Saint-Esprit vienne à la rencontre. Viens à la rencontre, Seigneur. Viens relever l'affligé. Viens à la rencontre de certaines personnes et demande-leur « Qu'est-ce qui se passe ? Je peux te donner. Je peux te donner. Mais toi, viens. Viens me donner ton poids. Viens me donner ton fardeau. Viens me donner ta crainte, ta peur. Viens me donner tes enfants. Viens me donner ton couple. Viens me donner ta famille afin que je puisse te donner. » Je te prie pour chaque famille ce matin, chaque couple, chaque parent, chaque finance, Seigneur, peu importe, je te prie pour chaque vie ici. Souffle ton esprit.